Une modification législative de la répartition des taux de la TGC et une aide complémentaire de l'État à hauteur de 13 milliards jusqu'au mois d'octobre, ce sont les deux textes qui étaient ce matin au menu du Congrès. La RPN1 coupée à Calagomène en raison d'un incendie à hauteur de la tribu de Tégon, une habitation touchée à Koumac après de nombreux départs de feu. Le plan hors sec feu de forêt de niveau 2 a été déclenché sur Calagomène. Les réservations de vols pour la ligne directe Nouméa Paris ouvertes depuis hier. Il y avait du monde aujourd'hui à l'agence d'Air Calin pour des informations et de premières réservations. Plus de navettes depuis ce matin entre le Mont-d'Or Sud et Nouméa. Elles reprendront demain si les conditions météo le permettent à nouveau. L'occultation de Saturne par la Lune observable ce soir dans le ciel calédonien. Ce phénomène rare ne se reproduira pas avant 30 ans. Et puis les horaires du Cinécity s'adaptent au couvre-feu. Ils ont été durcis pour le week-end du 24 septembre. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie réuni ce matin autour de plusieurs urgences qui ont provoqué des débats. Il s'agissait d'abord d'une modification juridique imposée par le tribunal administratif sur la fixation des taux actuels de la TGC, Gilles Ménage.
À l'époque de la mise en place de la TGC en 2016, c'est en effet un arrêté simple du gouvernement qui avait fixé les quatre taux actuels de 3, 6, 11 et 22% et qui définissait les produits entrant dans le champ d'application de chaque taux. Le 21 mars dernier, le tribunal administratif saisi par le syndicat des importateurs avait jugé illégal le fait de procéder par arrêté et imposer le passage par une délibération du Congrès. Il s'agissait donc sur le papier d'une formalité juridique, mais le débat est né de la volonté du gouvernement de fixer une date limite au 31 décembre pour l'application de cette délibération, car l'exécutif entendait entre-temps faire passer sa réforme à trois taux, 3, 10 et 18%, l'opportunité, selon Gilles Berthuyer, non membre du gouvernement en charge de la fiscalité, de réduire le coût de certains produits.
Beaucoup de biens de consommation, et notamment les équipements de ménage, l'électroménager, tout ce qui est salon, tout ce qui est literie, par exemple, tous les équipements informatiques, les voitures, par exemple, tout ça, c'est à 22%. Et donc, on souhaitait limiter l'application du taux actuel pour pouvoir se donner le mois d'octobre, là, pour rabaisser ces taux-là, simplifier les choses et surtout donner la possibilité au Congrès, compte tenu de la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie, à ajuster convenablement le taux. La proposition du gouvernement, c'était de profiter du passage de cette délibération pour limiter cette régularisation des taux de la TGC pour qu'on se donne rapidement l'opportunité de rétablir convenablement les choses.
Rapidement, mais un peu trop, selon une majorité constituée par les élus loyalistes, Rassemblement, Calédonie Ensemble et Éveil Océanien, qui considèrent qu'étant donné la situation actuelle, il faut se donner le temps d'un débat sur la question. Pour Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble, il fallait bien sûr voter cette délibération, mais sans la date limite pour son application.
Ça n'a pas l'air important comme ça, mais si nous n'avions pas adopté cette délibération aujourd'hui, ça veut dire que samedi, les prix des services auraient pris 5% d'inflation, en passant de 6 à 11%. Le prix des biens d'alimentation, notamment des biens de produits de première nécessité, serait passé de 3 à 11%, aurait pris 8%. C'est pour ça que j'ai parlé de... On a évité un choc, on va avoir un chaos inflationniste totalement insupportable et impensable dans les conditions actuelles. Et ensuite, on a eu un débat sur la date limite d'application de ces quatre taux, parce que le gouvernement nous dit qu'il travaille à une réforme de la TGC, notamment consistant à réduire le nombre de taux de 4 à 3. Mais ça, c'est dans un autre temps. On aura un débat, et un débat très approfondi sur cette perspective, dont il faudra bien mesurer l'impact, compte tenu de la situation actuelle, économique et sociale.
Un impact qui sera difficile à mesurer, évidemment, dans un délai aussi court, d'autant qu'il y a plusieurs théories sur l'avenir de la TGC, relève pour sa part Philippe Blaise pour les loyalistes.
Il y a plusieurs hypothèses qui circulent aujourd'hui sur ce qu'on doit faire de la TGC. Il y a le gouvernement qui parle d'une réforme à trois taux, il y a même certains qui parlent d'un taux unique. Ça ne fait pas consensus, cette histoire. Donc, on est intervenu pour dire que ce n'était pas une bonne idée, ce n'était pas un bon message de dire au monde économique qui souffre beaucoup aujourd'hui, qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'espoir, qu'on allait à nouveau leur imposer une réforme comme ça, avec une deadline de 31 décembre 2024. Je crois qu'à partir du moment où le Congrès a voté pour qu'on travaille ensemble pour le plan de sauvetage de la Calédonie, eh bien, il faut être en accord avec ce qu'on a voté, c'est-à-dire qu'on doit avoir des réunions entre nous, entre le gouvernement, le Congrès, les institutions, ici à Nouméa, pour se mettre d'accord sur les réformes qu'on veut engager, et pas se faire imposer au détour d'un texte une deadline avec une orientation déjà faite.
À l'issue de ce débat, l'amendement retirant la date limite du 31 décembre a été adopté par 25 voix pour et 23 contre. Les taux de la TGC resteront donc ceux qu'ils sont aujourd'hui jusqu'au vote par le Congrès d'une nouvelle délibération.
Autre débat, et là encore sur la base d'une formalité juridique, il s'agissait cette fois d'une délibération autorisant le président du gouvernement à signer une convention avec l'État pour une nouvelle aide d'urgence de 13 milliards de francs, Gilles.
Elle est constituée d'une subvention de 3 milliards de francs et d'une avance remboursable de 10 milliards. Elle doit permettre de réduire le déficit du RUAM, de financer le chômage partiel et de subventionner Enercal. Une décision modificative numéro 5 du budget principal de la Nouvelle-Calédonie était donc nécessaire, car pour l'instant, l'aide de l'État n'arrive qu'au coup par coup, explique Yannick Slamette, membre du gouvernement en charge du budget et des finances.
Quand on discute avec l'État, et surtout dans la situation de la Nouvelle-Calédonie, les discussions se font au coup par coup et les aides se font au coup par coup. Pour tenir compte de la situation de la Nouvelle-Calédonie, mais également sur la situation du gouvernement central. Et aujourd'hui, n'ayant pas de gouvernement ou de ministre, l'État ne peut que nous allouer ce qu'on appelle plus communément en termes budgétaires des queues de crédit. C'est une aide qui va jusqu'à octobre. Il faudra repartir en discussion avec l'État pour être sur la période novembre-décembre. On a déjà des assurances que l'État nous aidera. À quelle hauteur, ça c'est une autre histoire.
La délibération autorise le président du gouvernement à signer la convention avec l'État, mais des doutes ont été émis par Calédonie Ensemble sur les conditions demandées par l'État pour le versement de ces 13 milliards, car il y en a. L'État souhaite en effet notamment que le gouvernement se penche sur la question sensible des protections de marché. Mais il faut avant tout reconnaître l'engagement de l'État, c'est ce qu'a souligné pour sa part Françoise Suvet, la chef du groupe loyaliste au Congrès.
On est en mode survie hein, en Nouvelle-Calédonie. Quand on fait le compte de ce qu'a apporté l'État, c'est plus de 50 milliards. Là, aujourd'hui, on vote effectivement 13 milliards, un peu plus de 13 milliards. C'est juste une bouffée d'oxygène parce que ça va nous permettre effectivement d'arriver à financer un petit peu le RUAM, le chômage partiel, Enercal, en fait, le système énergétique. Mais on voit bien, je veux dire qu'on a besoin d'un vrai plan de relance et qu'aujourd'hui, les exactions qui ont été menées par les radicalisés de la CCAT nous mettent aujourd'hui par terre. L'État nous aide et heureusement.
En reconnaissant l'urgence de la situation en raison d'un risque imminent de rupture de trésorerie du RUAM, les élus ont donc voté cette délibération à l'unanimité tout en demandant communication du contenu de cette convention avec l'État.
Les loyalistes n'iront pas à Paris pour présenter à l'État le plan quinquennal adopté par le Congrès. Ils l'ont fait savoir cet après-midi dans un courrier adressé à la présidente du Congrès, Vilma Falaéo, Elisabeth Noir.
Oui, c'est le 28 août que le Congrès a voté une large majorité avec l'abstention du Palika. La proposition de plan quinquennal de 500 milliards, soit 4 milliards d'euros, visant à assurer le sauvetage financier et la relance de l'économie calédonienne. Il est prévu qu'une délégation composée de plusieurs partis politiques ayant voté en faveur de cette proposition, se rendent à Paris pour présenter ce plan aux plus hautes autorités de l'État. Mais les loyalistes qui avaient initialement prévu de faire le déplacement ont finalement choisi de ne pas s'y rendre parce qu'ils estiment que les conditions ne sont plus réunies. Le chef de groupe des loyalistes, Françoise Suvet, souligne dans ce courrier que son groupe regrette l'absence du Palika dans cette délégation parce qu'il pense que la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie ne peut se réaliser sans les composantes politiques qui défendent une voie pacifique et constructive. Les loyalistes pensent également que ce n'est pas le moment opportun pour se rendre à Paris en l'absence d'un gouvernement pleinement constitué. Ils estiment essentiel pour discuter d'un tel plan de relance de pouvoir échanger avec des interlocuteurs gouvernementaux en poste et prêt à agir. Il leur semble enfin inapproprié que plusieurs initiatives politiques soient en concurrence. Ils estiment en effet qu'il faut coordonner les actions du plan quinquennal avec celles du plan de sauvetage, de reconstruction et de refondation présenté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pour travailler à mieux synchroniser les initiatives du Congrès et du gouvernement et pour laisser le temps au prochain ministre de prendre pleinement connaissance du dossier calédonien, les loyalistes proposent donc à la présidente du Congrès de reporter la visite de la délégation à Paris, une visite à laquelle seraient prêts à participer pour le moment les groupes UCF, LNKS et Nationalistes, Rassemblement et Calédonie Ensemble.
Les 22 et 23 octobre prochains, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies examinera la situation de la France. Dans ce cadre, les loyalistes ont envoyé un rapport à ce Comité des droits de l'homme pour expliquer comment le coup d'État indépendantiste met en péril les droits humains et fondamentaux des Calédoniens. Un rapport dont viendra nous parler Bastien Van den Dijk, expert en géopolitique et en relations internationales. Il sera notre invité demain matin à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, selon vous, le consensus va-t-il être possible entre les représentants des institutions d'une part et les forces vives d'autre part autour du plan quinquennal demandé à l'État? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent le durcissement des mesures de couvre-feu et de vente et de transport d'alcool décidé par le haut-commissaire pour le long week-end du 24 septembre. Ils sont 12% à dire qu'ils n'approuvent pas ce durcissement. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Au commissaire de Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2014, le préfet Jean-Jacques Brault continue de suivre de très près l'actualité du territoire et il formule un certain nombre de propositions pour sortir de ce qu'il appelle la tragédie calédonienne. Il dit avoir reçu avec un total accablement et une tristesse épouvantable ce qui s'est passé le 13 mai et après. L'ancien haut-commissaire se dit saisi par l'ampleur du désastre et souligne que le retour à l'ordre public est une priorité. Le préfet Jean-Jacques Brault, qui face à la situation préconise une administration directe par l'État de la Nouvelle-Calédonie à titre temporaire.
L'État serait dans son rôle historique classique de prendre l'initiative, de rétablir l'ordre, la stabilité, la confiance, en même temps que la reconstruction devrait évidemment être entamée. Et selon moi, dans l'état actuel de cessation de paiement de beaucoup d'autorités publiques et privées, ou de la CAFAP ou d'autres de la Nouvelle-Calédonie, j'ai écrit et je redis, parmi les propositions que je fais, une administration directe, temporaire naturellement, par l'État me paraîtrait la réponse appropriée, temporaire bien entendu, mais à une situation aussi tragique de pourrissement durable, il faut répondre de façon singulière et nos normes administratives et juridiques sont là pour s'y adapter, pour permettre un sursaut, d'enrayer cette spirale qui est une sorte de suicide et de permettre à la Nouvelle-Calédonie de respirer un peu.
Autre conviction de Jean-Jacques Brault, celle que la Nouvelle-Calédonie doit être un dossier prioritaire géré directement par le Premier ministre. Le préfet Brault, qui était notre invité du matin à 7h30, une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. La rentrée scolaire 2025 ne sera pas une rentrée comme les autres. 4 mois après le début des émeutes, le bilan des dégâts subis par les établissements scolaires calédoniens est très important et il oblige les institutions et les collectivités à se réorganiser, Gilles Ménage.
Oui, un sujet dont nous avons parlé ce midi dans notre magazine citoyen. Écoles, collèges, lycées incendiés ou saccagés, le territoire n'a pas été épargné et la province sud a dû notamment se résoudre la semaine dernière à la fermeture définitive du collège de Rivière-Salée. Une décision difficile, mais les émeutes ont pour conséquence directe un effondrement des recettes des collectivités, a expliqué le deuxième vice-président de la province sud, Gilles Brial.
On est dans une situation financière très difficile, qui sont liées aux actes terroristes qui ont eu lieu depuis mai, avec la baisse de la fiscalité, avec de nombreux départs, et il faut en prendre compte. On n'a pas la capacité ni technique ni financière de reconstruire, et malheureusement, il n'y a même plus le besoin aujourd'hui à cause de ces départs. Depuis mai jusqu'à aujourd'hui, on a presque 700 élèves du primaire qui ont quitté la province sud pour partir soit en métropole, soit ailleurs dans le monde. Et on en a un peu moins de 400 qui sont partis dans la province des îles ou dans la province nord.
L'essentiel est que tous les élèves concernés par ces fermetures vont pouvoir être accompagnés vers leur nouvel établissement. Mais il va falloir tout de même repenser et redimensionner les écoles, notamment en raison de l'érosion de la population, constate Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa.
On est obligé à un moment donné de fermer des établissements. Moi, je suis à 6e école fermée dans Nouméa depuis 2014, dont 3 à Rivière-Salée quand même. Donc il faut après organiser des réunions avec les parents, organiser des réunions avec les personnels, etc., pour pouvoir accueillir les enfants dans d'autres établissements qui sont proches, puisque pour les écoles élémentaires ou primaires, c'est la même chose. Ils sont dans le quartier, mais parfois, quand on a fermé Vallée des Colons, il fallait que les parents emmènent leurs enfants un peu plus loin, etc. Donc c'est une adaptation complète. Mais à quoi sert-il de garder une 50aine d'élèves dans une école où on a des CP, où il n'y a pas d'interaction entre les enfants, puisque c'est l'apprentissage, ça se fait aussi avec le maître, mais avec les autres élèves. Donc c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est l'enfant qui reste l'essentiel dans cette démarche.
Au-delà des dégâts et de la nécessité de reconstruire, il y a donc un mouvement démographique dont il va falloir tenir compte, a souligné pour sa part le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, Didier Vindatich.
Il y a un mouvement démographique qui est incontournable, qui est au fondement, je dirais, des dotations de nos établissements. Moi, le chiffre que je cite souvent, c'est que nous avons perdu au cours des 10 dernières années l'équivalent de 12 collèges de taille moyenne, c'est-à-dire 300. Donc vous imaginez le volume que cela représente de population à scolariser en moins. Et ce mouvement va se prolonger. Ça, c'est la composante tendancielle et structurelle. Et puis, il y a le mouvement conjoncturel, c'est-à-dire les mouvements très récents liés aux migrations des populations, soit à l'extérieur. Bon, les chiffres sont variables, mais on est sur plusieurs centaines, en effet, d'élèves que nous avons perdus aussi dans le secondaire, et les migrations internes. Ça, ce sont des données vraiment nouvelles qu'il faut absolument intégrer dans le cadre de la préparation de rentrée, qui cette année, effectivement, est inédite. Je pense qu'on n'a jamais on aura fait une rentrée en Nouvelle-Calédonie en fermant des établissements de cette importance.
Un magazine citoyen que vous pouvez bien sûr retrouver en intégralité audio sur notre site internet rrb.nc.
Merci Gilles. Il est 18h01. Nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Calédonie. On parlera d'abord de ces incendies qui touchent la province nord, notamment à Kumak et Calagomen. A tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Isabelle Pelletier.
Je vous le disais, les pompiers sont sursollicités depuis hier en province nord. Plusieurs communes sont en effet touchées par d'importants incendies. C'est le cas notamment à Kumak et Calagomen, Charlotte Coulson.
Oui, près d'une trentaine d'hectares ont déjà pris feu depuis hier dans le lit de la rivière à Kumak. Une habitation a même été partiellement incendiée. On écoute les précisions de l'adjudant Kevin Leclerc, sapeur-pompier au SCVM Nord.
Commençait vraiment les feux dans la rivière hier à 8h. Mais bon, on en a eu aussi les jours précédents, mais vraiment, on a eu une recrudescence hier matin à 8h. On a terminé hier soir vers 22h, 23h, et ce matin, on a été rappelé pour de nouveaux départs encore dans la rivière, et une reprise sur un des feux d'hier soir, qui ont menacé des habitations, et malheureusement, on en a une qui a été touchée là tout à l'heure. C'est le bloc sanitaire, avec le coin cuisine qui ont été touchés, et le reste de la maison, on a réussi à le préserver en coupant le feu au niveau du bloc sanitaire.
Et heureusement, les sapeurs-pompiers bénéficient du soutien des volontaires du RSMA à Kumak, ainsi que de la sécurité civile. Elle intervient également à Calagomen. La commune est touchée depuis hier par de nombreux incendies. Un feu s'est notamment propagé et a occasionné la fermeture de la RPN1 par la gendarmerie, comme l'explique Kevin Leclerc.
La RPN1 a été coupée par la gendarmerie. À l'heure actuelle, normalement, elle l'est toujours. On a eu plusieurs feux ce matin sur Calagomen. Tribu de Saint-Pierre, la tribu de Païta et un Tégon. Et c'est ce dernier, celui qui est à la sortie nord de Calagomen, qui a pris toute une autoroute de végétation qui l'a emmené avec le fort vent sur zone en plein direction nord, vers le lieu-dit Troulala. Le feu a pris de part et d'autre de la route, qui a entraîné du coup la coupure de taxes par la gendarmerie. La partie que vous avez entre Tégon et Troulala, donc c'est celle qui est fortement impactée en ce moment, elle doit faire dans les 5 km environ.
Et Kevin Leclerc qui en profite pour remercier les civils qui se mobilisent pour soutenir les sapeurs-pompiers. Il en appelle également à la vigilance face à la multiplication des mises à feu dont l'origine est bien souvent volontaire.
Alors l'origine des incendies, elle n'est pas naturelle. Faut arrêter de croire que ça puisse être naturel. Ce sont des mises à feu. Hein. Et ça va être avec la vigilance de chacun qu'on pourra peut-être arrêter ce fléau. Là. Parce qu'on est vraiment dans la période et la météo qui font qu'on ne peut pas jouer avec le feu là en ce moment. Ben là, on a les propriétaires qui sont arrivés il n'y a pas longtemps et malheureusement, ils reviennent à la maison avec les enfants. Ils s'aperçoivent qu'il y a toute une partie de la maison qui est partie en fumée. Donc on ne comprend pas trop le jeu du pyromane, mais bon, il fait énormément de dégâts, quoi.
Les pompiers aidés de la sécurité civile sont toujours actifs à Kumak comme à Calagomen pour tenter de maîtriser les incendies. Au regard de leur importance, le président du gouvernement, Louis Mapou, vient d'annoncer à 17h30 l'activation du dispositif hors sec de niveau 2. Il prend donc la direction des opérations de secours. Le bilan provisoire fait état de plus d'une centaine d'hectares de surface brûlée sur les deux communes.
L'économie est du nouveau pour Prenez Ressources avec la perspective d'un repreneur sud-africain, Gilles Ménage.
Laurent Charbonnier, le directeur commercial et du développement de l'entreprise Sibanye Stillwater, est actuellement en Nouvelle-Calédonie pour discuter d'un éventuel accord de reprise de l'usine du Sud. Sibanye Stillwater est un groupe sud-africain basé à Johannesburg qui est spécialisé dans l'extraction de l'or et des métaux précieux du groupe du platine. Il avait racheté il y a 3 ans à Eramet la raffinerie de nickel de Sandouville avec pour objectif le marché européen des batteries électriques. Et c'est dans ce contexte qu'il pourrait donc être intéressé par le rachat de Prenier Ressources avec l'objectif de développer une filière intégrée. Les négociations ne font bien sûr que commencer, mais on sait que Prenier Ressources est à la recherche d'un repreneur alors que sa production est à l'arrêt depuis le mois de mai en raison des risques pour la sécurité et des dommages aux infrastructures causés par les violences insurrectionnelles.
Les clients étaient nombreux ce matin devant Air Calin au centre-ville. Les réservations de vol pour la ligne Nouméa à Paris ont en effet ouvert aujourd'hui. De nombreuses personnes se sont déplacées, Charlotte, pour se renseigner sur les tarifs.
23h40 seulement pour aller à Paris avec une seule escale technique prévue à Bangkok. C'est la route la plus courte possible pour se rendre en métropole. D'autant plus que les tarifs promettent d'être avantageux avec un prix d'appel en basse saison inférieur à 200 000 francs l'aller-retour. Forcément, de nombreux Calédoniens sont intéressés par cette nouvelle ligne et se sont déplacés ce matin pour avoir des renseignements.
C'est intéressant parce que ça offre une multitude d'opportunités via le hub de Bangkok. Parce que bon, la Thaïlande, on connaît déjà un petit peu, mais à partir de Bangkok, on peut rayonner, pourquoi pas, vers d'autres destinations, Cambodge, Laos, Birmanie. Puis c'est surtout la durée du voyage qui est très courte, 23 heures je crois.
C'est la raison pour laquelle je suis là, c'est pas forcément une décision mais on va se renseigner. Et effectivement on recherche des meilleurs tarifs.
Pour des infos sur le prix, enfin sur les possibilités d'aller en France avec la nouvelle ligne, ça a l'air moins cher, un peu plus court aussi le trajet, je veux voir les dates disponibles.
Le premier vol partira de Nouméa le 11 décembre, la compagnie internationale proposera dès cette date 2 rotations par semaine.
Les rotations maritimes entre Nouméa et le Mont d'Or annulées pour la journée, la province sud avait initialement maintenu les liaisons avant de se raviser en raison d'une trop forte houle ce matin, Charlotte.
Le Coral Palm et le Maridé ont toutefois eu le temps de réaliser une première rotation. Et c'est justement ce trajet effectué sous une forte houle qui a convaincu la province sud d'annuler le reste des liaisons de la journée. Les deux bateaux ont même subi des dégâts mineurs, explique Thomas Pasquier, capitaine du Coral Palm.
Les conditions étaient difficiles à prévoir, on ne savait pas trop entre la houle et le vent, en fonction d'un tout petit peu de changement de direction, ça peut être tout bien ou tout mauvais. Donc on a quand même essayé, le Marais des Princesses également, et on s'est présenté sur zone et on a effectué un accostage. Et les deux bateaux ont réussi à accoster de manière assez compliquée. Débarquement des passagers, et le Marais a réussi à embarquer les passagers avant que le vent se lève de trop. Et pour le Coral Pal, on n'a pas pu embarquer, on est resté quelques minutes sur zone, juste le temps de débarquer. On va dire que les conditions étaient vraiment pas réunis pour un embarquement sécuritaire pour les passagers au Mont d'Or et pour le bateau qui finalement subit des dommages dans ces conditions. On va dire des petits dommages non structurels qui quand même nécessitent de la soudure. Le soudeur a effectué les réparations sur le bateau pour qu'il puisse être à nouveau apte à la navigation.
À Port-Moselle, certains usagers ont appris ces annulations sur le tard. C'est le cas d'Angélique qui est arrivée au quai de Nouméa pensant rentrer chez elle après une nuit de travail. Mais elle va devoir prendre son mal en patience ou trouver une solution annexe pour rentrer chez elle. Elle décrit une situation compliquée à vivre au quotidien.
Je termine le travail là, je m'apprêtais à aller au Mont d'Or et voilà, je vois qu'il n'y a personne. Donc je pense que les navettes sont annulées. Donc encore une fois, on va patienter, on va attendre, en ne sachant pas si on rentrera à la maison ce soir ou ce matin. Là, c'est vrai, quand c'est vide, c'est que vraiment, on n'aura pas de navette. Quoi. Puis les bateaux sont tous amarrés là. On va attendre, il faut attendre. C'est compliqué au quotidien. Bon, moi, pour moi, ça va, je marche, mais je vois les gens, les vieux, les plus vieux que moi, qui prennent le bateau à chaque fois. Ben, c'est dur, quoi. Et ceux qui sont en fauteuil roulant, les bébés qui pleurent. Ouais, c'est compliqué. C'est très, très compliqué.
Le dispositif devrait reprendre dès demain si les conditions sont réunies. La province sud communiquera sur les réseaux sociaux les futures décisions qui seront prises.
Le centre médico-social de l'île des Pins est fermé depuis hier en raison de l'absence de médecins. C'est ce qu'a annoncé la province sud qui précise que le CMS de l'île ne peut plus assurer les consultations médicales. En cas d'urgence, les patients doivent appeler le 15 et les renouvellements de traitement pourront se faire avec la pharmacienne qui dispose de l'habilitation nécessaire. Pour le reste, c'est un retour progressif à la normale. Après les fortes pluies de vendredi dernier, les services de la mairie, les écoles et le collège de l'île des Pins ont rouvert leurs portes ce matin après 2 journées consacrées au nettoyage et à la remise en état.
RRB, les 18h10.
De retour des Jeux Olympiques où il a permis à Teddy Riner de décrocher l'or en judo, Laurent Caléja a échangé avec le personnel de la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein, ce matin, Gilles Ménage.
Le manager général du judoka français le plus titré de l'histoire a en effet rencontré les militaires de la base aérienne, des pilotes, des ouvriers, des mécaniciens. Une heure d'échange sur le thème de la gestion d'une équipe sous forte tension. Une thématique qui rassemble forcément les sportifs de haut niveau comme Teddy Riner et les forces de l'ordre, puisqu'ils sont confrontés lors des compétitions ou bien des interventions à un stress permanent. Pour Laurent Caléja, ce partage d'expérience est bénéfique pour tout le monde.
Oui, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens qui œuvrent pour le pays, donc c'est bien, et autant pour eux que pour moi, c'est intéressant. C'est vraiment le partage d'expérience, en fait, sur la gestion du stress, déjà, parce qu'ils sont soumis à des gros stress aussi par rapport à tout ce qui vient de se passer et tout ce qui va se passer. Et moi, sur la gestion du stress des Jeux Olympiques avec des grosses échéances comme avec Teddy, donc il y a beaucoup de ressemblances. Et dans le code moral qu'ils ont aussi, nous, on a un gros code moral aussi dans le judo, et sur la gestion du stress, sur l'éloignement des familles, sur toutes ces choses-là qui sont un petit peu similaires. Donc, moi, je pense que dans tous les moments difficiles, ce qui est intéressant sur la gestion du stress, c'est de rester focus sur les missions qu'il y a à faire. Ça, c'est super important. Et puis après, la pluie vient le beau temps, toujours.
Environ 50 militaires ont assisté à cette conférence de Laurent Caléja. Ils ont pu par la suite échanger avec lui sur leurs différentes expériences.
Il est 18h12. Nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de développer le reste de l'actualité. On parlera notamment de cette occultation de Saturne par la Lune dans le ciel calédonien. Un phénomène rare. On se retrouve tout de suite après la pub.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone, Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Avec cette occultation de la planète Saturne par la Lune, c'est le phénomène céleste assez rare que nous pourrons observer ce soir si la météo le permet. Si le ciel est assez dégagé, en clair pendant 45 minutes, la Lune va visuellement passer devant Saturne. Si vous n'avez pas de télescope ou de lunettes, vous pouvez vous munir d'une paire de jumelles. C'est l'instrument idéal pour faire ce genre d'observation. Notre confrère Lionel Sabot, passionné d'astronomie, nous en dit un peu plus sur ce phénomène.
La Lune va passer et va cacher pendant 45 minutes environ la planète Saturne. Alors bien sûr que la Lune ne va pas passer physiquement devant la planète Saturne, qui est très loin dans le système solaire, mais en tout cas, depuis notre position d'observateur en Nouvelle-Calédonie, la Lune va masquer pendant 45 minutes environ, elle va occulter, c'est le terme exact, elle va occulter Saturne. Donc ce soir aux alentours de 19h30, on va voir un petit point de lumière qui est Saturne, à l'œil nu, hein, tout près de la Lune, et puis d'un coup on va voir ce petit point complètement disparaître, et aux alentours de 20h16, parce que c'est assez précis la mécanique céleste, et ben on va voir ce petit point réapparaître dans le ciel. La Lune aura donc masqué, sera passée devant Saturne pendant près de 3/4 d'heure.
Une occultation de Saturne par la Lune qui durera donc 3/4 d'heure ce soir, et c'est un phénomène qui a la particularité de se produire en série.
Les planètes circulent toutes sur une ligne imaginaire qu'on appelle l'écliptique. Elles sont pratiquement alignées dans le ciel. Il se trouve que la Lune, le trajet qu'elle décrit dans le ciel, est un tout petit peu décalé par rapport aux planètes. Alors très souvent, dans le ciel, il y a ce qu'on appelle des conjonctions, des rapprochements entre la Lune et les planètes. Et puis de temps en temps, la Lune va passer devant une de ces planètes, et c'est ce qui va se passer ce soir. Alors c'est pas un phénomène qui est extrêmement rare, mais il n'est pas fréquent non plus. En fait, concernant la Lune et Saturne, sur des périodes de 3 à 5 ans, pendant un an, très régulièrement, la Lune va passer devant Saturne. Après, c'est pas visible partout dans le globe. Ce qu'on va voir ce soir en Nouvelle-Calédonie ne sera pas visible, par exemple, dans l'hémisphère nord ou en métropole. En revanche, il y a quelques mois de ça, il y a eu une occultation de Saturne par la Lune qui a été visible depuis la métropole, depuis l'Amérique du Nord, mais qui n'était pas visible depuis la Nouvelle-Calédonie.
Voilà notre confrère Lionel Sabot, des propos recueillis par Kélinda Boicou. Et vous pouvez noter d'ores et déjà que la prochaine occultation de Saturne par la Lune, visible depuis la Calédonie, aura lieu en 2054. Le Ciné City s'adapte aux horaires du couvre-feu. Ils ont été durcis pour le week-end du 24 septembre. Le couvre-feu s'appliquera de 18h à 6h, du samedi 21 septembre au mardi 24 septembre. En conséquence, les séances de cinéma sont reprogrammées. À Nouméa, les séances auront lieu à 10h le samedi, le dimanche et le lundi. Au Mont-d'Or, le drive-in sera fermé le samedi 21 et le dimanche 22. Et puis à Koné, les séances du Ciné Nian seront programmées en début d'après-midi. On écoute les précisions de Douglas Hickson, le directeur du Ciné City.
Étant donné le nouveau couvre-feu, nous avons dû supprimer les séances du soir qui démarrent à 18h, puisque le couvre-feu démarre à 18h le samedi, le dimanche et le lundi. Et donc nous avons rajouté une séance du matin qui existe le samedi, mais que l'on fera aussi dimanche 22 et lundi 23 au Ciné City. Le 24, nous serons fermés. Et au drive-in, cela n'impactera que la séance de samedi soir qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu. En ce qui concerne le Ciné Nian, on a remonté un petit peu nos horaires, donc ce qui nous permet de maintenir nos séances. En revanche, on finira un petit peu plus tôt que d'habitude, de manière à libérer tout le monde vers 17h30. On s'adapte complètement, étant donné que nous ne pourrons pas maintenir les horaires du soir. On fait une horaire du matin, parce que c'est quand même, les enfants seront disponibles, donc les parents pourront les conduire au cinéma en fin de matinée.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site et le Facebook du Ciné City. 18h et 16 minutes, c'est presque la fin de ce journal. On va passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous, Nicolas.
Alors, cette nuit, une nouvelle bande de nuages bas abordera le sud et l'ouest et donneront de faibles ondées en fin de nuit. Le vent de secteur sud soufflera souvent entre 15 et 20 nœuds en soirée, puis se rapprochera des 15 nœuds. Sur l'est, il mollira autour de 10 nœuds. Les températures minimales resteront en dessous des normales de saison, jusqu'à 11 degrés dans l'intérieur de la côte ouest. Demain matin, sur le sud, la côte ouest et au Loyauté, de faibles averses circuleront sous un ciel nuageux, mêlant nuages bas et nuages d'altitude. D'ailleurs, les éclaircies seront majoritaires et le temps sera généralement sec. Le vent s'orientera au sud-est entre 10 et 15 nœuds. Localement, plus de 15 nœuds, ce serait sur le nord-ouest.